Radio Campus. Il est 6.
Avec plus de 30 clubs actifs, l'aïkido s'ancre solidement dans les Hauts-de-France. À Compiègne comme ailleurs, il séduit un public fidèle en quête de calme et de maîtrise. Michel Alphonse, président du club d'aïkido de Compiègne, nous en dit plus sur cette discipline qui plaît aux jeunes de la région.
Je m'appelle Michel Alphonse, je suis président du club d'aïkido de Compiègne. J'en suis aussi un des professeurs et aussi pratiquant.
Et donc, avant d'aller un petit peu plus loin, expliquez-nous, l'aïkido c'est quoi? Ça vient d'où? Expliquez-nous.
Alors l'aïkido, c'est un art martial japonais. Si on veut faire un comparatif avec ce que tout le monde connaît, comme le judo et le karaté, par exemple, la grosse différence structurelle, c'est qu'il n'y a pas de compétition. Pendant les cours, il n'y a pas de catégorie de poids, il n'y a pas de catégorie d'âge, hormis la différence entre les cours adultes et les cours enfants. Et ce sont des cours mixtes aussi, il n'y a pas de cours hommes et de cours femmes.
Et donc, comment ça se passe? Comment se passe un entraînement? Est-ce que vous pouvez nous raconter?
On commence toujours par un petit cérémonial de salut en direction de ce que l'on appelle le kamisa. C'est régulièrement une calligraphie qui représente le mot Aïkido et éventuellement une photo du fondateur. Donc un premier salut en direction du kamisa et ensuite un deuxième salut entre le professeur et les enseignants. Ensuite, on va commencer par une période de préparation physique et mentale, avec des étirements, et ensuite le cours va commencer. Chaque cours va être différent en fonction du thème qui a été choisi par le professeur. Ça peut être des cours qui vont être dirigés sur une technique en particulier, ou plusieurs techniques, ou faire un comparatif entre une technique exercée sur un partenaire qui est à main nue, et en parallèle un autre partenaire qui va avoir un sabre en bois, un couteau en bois.
Vous me disiez que du coup il y avait des bâtons en bois, etc. Donc il y a plusieurs outils pour faire pratiquer cet art martial. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Alors, dans la majorité d'un temps de cours d'aïkido, on a régulièrement plus de travail à main nue contre un ou plusieurs, ce qu'on appelle des partenaires, puisqu'on n'a pas d'adversaire, on est dans un dojo sans compétition. On apprend à réagir face à des attaques à main nue, par exemple, soit avec des armes, un bâton en bois, un couteau en bois, un sabre en bois, ce qui permet de travailler différentes longueurs, différentes distances par rapport à ces attaques. Et on va, encore une fois, pour faire un comparatif avec le judo, par exemple, on va réagir avec des techniques d'immobilisation ou de projection.
Et donc aussi, j'ai lu que vous utilisez la force de l'adversaire, entre guillemets, pour pratiquer ce sport-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
On va plus parler de non-opposition et d'accompagnement face à une agression. On parle régulièrement, de plus en plus, on entend parler de coups de couteau par exemple. Donc on va travailler avec un partenaire qui a, lui, un couteau en bois. Plutôt que de venir en opposition et de venir pousser sur lui, on va plutôt accompagner son mouvement, ce qui permettra de le déséquilibrer, de prendre son centre, de prendre son corps, de l'accompagner, et ensuite de pouvoir faire une technique d'immobilisation ou de projection, ou alors courir très vite, ce qui est peut-être la meilleure des techniques.
Vous me disiez tout à l'heure qu'il y avait des femmes, des hommes, tout le monde pouvait pratiquer ce sport. Mm-hmm. En fonction de l'âge, de toutes les tranches d'âge, est-ce que les méthodes, elles changent, les méthodes d'apprentissage?
On va faire un distinguo entre les cours enfants et les cours adultes. Un cours enfant va durer un petit peu moins longtemps et on va surtout être très ludique. Si on est trop technique, comme on peut le faire avec des adultes, ils vont être vite découragés. Les enfants, il faut que ça bouge, il faut que ça joue. Donc on peut apprendre par l'intermédiaire de jeux. Chacun travaille avec son propre rythme. Nous, en tant que personne qui reçoit cette agression, on va s'adapter. On ne va pas projeter brutalement un pratiquant débutant ou quelqu'un qui est avancé en âge qui aura du mal à chuter. Je vous rassure, notre pratiquant qui va avoir 80 ans, il fait des chutes comme moi j'en faisais quand j'ai commencé l'aïkido et 10 ans après et aujourd'hui. Ça marche très bien.
Donc ce n'est pas un sport qui est dangereux?
Non, il y a très 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 rarement des accidents. Il peut arriver une luxation. J'ai vu une fois en 25 ans une luxation d'épaule et puis bon, de temps en temps un orteil qui se coince entre deux tatamis ou deux personnes qui s'accrochent à un orteil, mais ça va jamais bien loin.
Et qu'est-ce qui fait de ce sport une discipline aussi populaire dans la région ? Réponse avec Michel Alphonse.
Certains vont venir parce qu'ils ont envie de faire quelque chose de dynamique une fois par semaine, deux fois par semaine. Une bonne quantité, je trouve, surtout chez les jeunes, on sont attirés par une culture japonaise. On retrouve, on n'en a pas parlé, sur la tenue d'un aikidoka. On porte un kimono, comme un judoka, mais par-dessus le kimono, les gradés portent un hakama. Le hakama, c'est un pantalon d'origine médiéval au Japon, ça vous allez le retrouver si vous lisez certains mangas. Beaucoup sont attirés par l'aspect art martial japonais.
Et pour parler maintenant un petit peu des effets de ce sport-là, quand je me suis renseignée, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'effets bénéfiques sur le long terme, notamment sur le corps et l'esprit, la sérénité, tout ça. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Alors, déjà, on ne vient pas tous à un cours d'aïkido pour les mêmes motivations. Certains viennent parce qu'ils sont intéressés par la culture japonaise, d'autres sont intéressés par les arts martiaux. Bien souvent, on a des pratiquants qui sont passés par la case judo, karaté. Comme je l'ai entendu dire une fois, bon, il y en a assez de bourriner, maintenant je voudrais travailler avec souplesse. Déjà, le fait d'avoir une activité physique régulière, ça permet de conserver un état de santé le mieux possible, le plus longtemps possible. Alors, étant donné qu'il n'y a pas de compétition contre d'autres partenaires, on est juste en compétition avec soi-même, ce qui est déjà beaucoup. Ça va apprendre le respect des règles, le respect des lieux, le respect de ses partenaires.
Pour parler un peu de vous, Michel, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette discipline ?
Alors moi, l'aïkido, tout à fait par hasard. Je cherchais à un moment donné de ma vie de pratiquer le kendo. Le kendo, c'est une discipline japonaise où on pratique l'escrime avec des sabres en bambou. On est habillé, comme je vous le disais tout à l'heure, avec ce que je croyais être une longue toge. Je savais pas que c'était. Je connaissais pas du tout ces vêtements. Je voyais ces gens habillés en noir avec leur hakama, un casque sur la tête pour se protéger des coups. Donc j'étais attiré par cette discipline. J'ai cherché dans ma région. Il n'y avait rien du tout. J'ai regardé ce qui pouvait se rapprocher le plus. J'ai regardé l'aïkido, j'ai regardé des vidéos, j'ai regardé l'historique. J'ai trouvé que c'est quelque chose qui pouvait me convenir. Je suis allé voir dans un club, m'asseoir sur un banc pour regarder comment se passait un cours. L'enseignant est venu me voir en me disant « Non, tu vas pas rester sur le banc, tu retires tes chaussures, puis tu vas monter sur les tatamis, et puis tu vas faire un cours d'essai, ça sera quand même plus parlant que d'être sur un banc. » Et ça a commencé comme ça.
Et pour terminer sur une bonne note, est-ce que vous avez une anecdote particulière concernant l'aïkido à nous raconter ?
Les 50 ans du club d'aïkido de Compiègne. Le club a été créé en 1973, je crois. On a fêté les 50 ans du club il y a 2 ans. Donc à cette occasion, on a fait revenir dans notre dojo les deux professeurs et fondateurs du club qui nous ont passé la main il y a quelques années. On a retrouvé de très anciens pratiquants, dont un qui avait commencé une cinquantaine d'années dans le club de Compiègne et qui est parti dans la région PACA. Et on a fait venir des très hauts gradés aussi pour une grande rencontre nationale, voire internationale. On a eu quelques personnes qui venaient de Belgique aussi. Donc ça, on a passé une très belle journée, une grande journée de pratique ensemble pour fêter les 50 ans du club.
De Lille à Amiens, en passant par Compiègne, l'aïkido tisse son réseau à l'échelle régionale. Discret mais structuré, il séduit ceux qui cherchent un art de vivre autant qu'un art martial. Aïkido, une discipline qui s'enracine dans la région. Un reportage de Juliette Carlier pour Radio Graphite.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Et là, si j'ouvre la porte, mais vous restez silencieux, hein, si j'ouvre la porte, vous allez comprendre, on va arriver au cœur même du projet, vous allez voir, il y a une très grande biodiversité, il y a une énorme diversité culturelle, on sera au cœur de Radio Campus Lille. Et oui, vous êtes bien sûr Radio Campus Lille 106,6.
Elles sont rondes.
Et plus qu'une de cils.
Elles sont rondes.
Et tellement passives.
Elles sont rondes.
Pas vraiment félines.
Elles sont rondes.
Soir.
Car elles
n'ont plus aucun espoir. Souvent
ne disent rien.
Quand on fait les crétins. Souvent
ne disent rien.
Vibration blown out the world in Brooklyn, yo. Caught up in the groove. You wanna get up and dance. You wanna get up and sing. You wanna get up and do the
boogie woogie, yeah.
But you don't dare, cause the beat is high. Here comes a collector knocking at your door. You can't understand me culture. No reason to refer chercher quoi t'arriver. My roots are deep, oh yeah. Listen to my message. I've got news for ya. I'm free. I walk my own walk. I've got news for ya. I'm free. I dance my own dance. I've got news for ya. I'm free. Free at last. Uh-huh. C'est moi non. You're a bus of a pride and took a woman for the ride. Took it like man that we are stood tall and got back our dead net set. Night shocks ya, yeah, that your woman lack of vibe. When you talk about equality, one world, one book, one sky, one people on earth, tell me man, is it all jive? You say that you've got an open mind. Stop judging what you don't understand. Don't try to taste such a great heritage. My roots are deep. Listen to my message. I've got news for ya. I'm free. I walk my own walk. I've got news for ya. I'm free. I dance my own dance. I've got news for ya. I'm free. Free at last.
Free at last. Free at last. Free.
Understand me culture, oh no. No reason to revert to your old ways. Don't try to this such a great heritage. My roots are deep, oh yeah. Listen to my message. I've got news for ya. I'm free. I walk my own walk. I've got news for ya. I'm free. I dance my own dance. I've got news for ya. I'm free. I talk my own tongue. I've got news for ya. I'm free. I sing my own song. Got news for ya. I'm free. Free at last. I walk my own walk. Talk my own talk. I am who I am. I walk my own walk. Dance my own dance. Sing my own song. I'm free.
Yes, I'm free.
I am who I am. I am who I am. Yes, I'm free. Yes, I'm free. Yes, I'm free. Free at last.
Free at last.
Yes, I'm free. Yes, I'm free. Free at last.
Mm. Du 29 au 31 août, le parc départemental d'Olin, près de Béthune, va vibrer au rythme du Bivouac Festival, un festival de musiques actuelles co-organisé par le parc, l'association Droits de Cité et le producteur lillois À Gauche de la Lune. Un rendez-vous musical différent puisqu'il se revendique éco et slow. Éco pour les engagements pris pour limiter l'impact carbone et donc les nuisances sur l'environnement. Et slow, parce qu'avec une jauge limitée à 2000 personnes et une volonté de ne pas surcharger le rythme de ce festival, c'est un rendez-vous qui aime prendre son temps. Présentation de l'événement avec Florent Decroix, directeur d'À Gauche de la Lune et l'un des co-organisateurs de ce festival.
Le festival, en fait, est co-organisé par le parc d'Olin, en fait, avec qui on travaille en étroite collaboration, et l'association Droits de Cité, qui est une association qui œuvre dans les Hauts-de-France pour le développement de la culture et l'action culturelle, y compris en milieu rural.
Alors, si on devait résumer en quelques mots l'esprit du festival, qu'est-ce qu'on peut dire ?
L'esprit du festival, en fait, c'est de bien manger, bien s'amuser, bien dormir, en passant du bon temps ensemble. En fait, l'idée de ce festival, c'est d'être un peu à rebours des festivals traditionnels, c'est-à-dire que c'est dans un cadre naturel, c'est complètement éco-conçu, on pourra y revenir un peu plus tard, et c'est un festival où on va prendre son temps, parce qu'il n'y a pas de planning démentiel, et on mélange, en fait, des activités sportives, des activités de plein air, avec de la musique, de la gastronomie, et surtout, en fait, on peut dormir sur place, arriver le vendredi et repartir le dimanche, soit en formule de camping, soit dans un cabanon, soit dans une bulle, dans un arbre, ou même venir avec son van ou son camping-car.
Et c'est vrai que, outre la musique, qui est aussi un des critères pour faire le choix d'un festival lorsque l'on est spectateur, il y a de plus en plus cet attachement à l'expérience autour du festival. Et là, justement, il y a plein de choses qui se passent pour faire de ce week-end du 29 au 31 août un week-end mémorable.
Tout à fait. Donc, en plus de la musique, alors il faut savoir que les groupes, alors on a quelques têtes d'affiche à notre niveau, mais c'est surtout des vrais coups de cœur live, c'est-à-dire que ce qu'on présente à Bivouac, en fait, c'est avant tout des artistes, en fait, qui sont incroyables en live, et les éditions passées, en fait, nous ont donné raison, et les gens, sans forcément connaître les artistes présentés, en fait, ont été conquis par leur performance sur scène. Mais au-delà de la musique, en fait, qui reste une des composantes, on peut bénéficier pendant Bivouac de toutes les activités du parc, c'est-à-dire que on peut aller à la piscine, on peut aller dans les filets dans les arbres, on peut faire de l'acrobranche, on peut faire de la luge, il y a des cours de yoga qui seront organisés. Cette année, en fait, il y a même une petite nouveauté, en fait, parce qu'on a décidé de vraiment travailler sur la mobilité du public, et on sait que le parc d'Olin, en fait, est très très mal desservi par les transports en commun. Donc cette année, en fait, on va avoir d'une part des navettes depuis la gare de Béthune, en fait, pour emmener les festivaliers jusqu'au parc, mais surtout, en fait, pour tous les gens qui viendront en vélo, on a décidé de leur offrir le camping, et surtout, en fait, on aura un atelier de réparation et réglage de vélos sur place, gratuit pour tous les gens qui viennent à Bivouac en vélo.
Le pari de ce festival est de limiter son impact carbone. Pour cela, les organisateurs travaillent avec un cabinet indépendant chargé d'évaluer les données. Si la note est déjà maximale, pourtant, les organisateurs promettent de faire encore mieux. Les explications de Florent Decroix, co-organisateur du Bivouac Festival.
On veut toujours faire mieux, si vous voulez. Juste pour rire, l'année dernière, on a consommé 1 litre de gasoil sur un groupe électrogène qui s'est mis en route à 1h du matin pour l'éclairage de sécurité, en fait. Donc, on va essayer de faire mieux et de pas faire en sorte qu'il ne s'allume pas. Mais, en fait, le champ d'amélioration, en fait, est assez vaste, en fait, y compris sur... parce que quand on parle d'éco-festival, on a tous en tête CO2 ou consommation énergétique. Par contre, il y a tout un volet, en fait, territorial et retombé pour le territoire, en fait, qui est vraiment à travailler. C'est-à-dire que on peut toujours faire mieux sur l'emploi local, sur les fournisseurs locaux. En fait, on a choisi, nous, de restreindre notre champ d'approvisionnement à 10, voire 15 kilomètres autour du festival. Et malheureusement, par exemple, pour les mâts hybrides qui nous servent d'éclairage de sécurité, en fait, on les a que à Lille, en fait, ces choses-là. Donc ça, c'est à améliorer, en fait. On essaie de trouver une autre solution que ces mâts. Et des solutions, il y en a avec le développement des industries de batteries sur la zone industrielle de Rouy. Je pense qu'à terme, on arrivera à se fournir en batteries là pour alimenter notre éclairage de sécurité. Ce sera pas encore cette année, ce sera sûrement l'année prochaine ou peut-être dans 2 ans. Mais voilà, ce genre d'amélioration est toujours possible. Et après, l'amélioration continue sur l'inclusivité, le rapprochement des publics, les milieux de la culture, etc. En fait, il est infini. Et en fait, même un A en fait est peut-être encore dépassé par un AAA ou un AA+.
Et puis, côté local, il y a également la gastronomie. Ça aussi, ça fait partie des petits plus bien agréables de ce festival, parce que la restauration se veut de qualité et surtout locale.
Oui, alors la restauration est gérée par une entreprise en fait qui est basée à Bruay-la-Bissière, donc à un bon 4,5 km du site, qui était avant un estaminet, l'estaminet de la Belle au Bois en fait à Bruay-la-Bissière, pour ceux qui connaissent, en bas de la pente du Vélodrome, et donc tout est fabriqué sur place à base de produits frais, à base de produits qui sont achetés dans notre rayon de chalandise qu'on s'est imposé. Et petit truc rigolo, c'est qu'en fait, pour faire bivouac, en tout, on a 32 ampères qui viennent de la musique, qui viennent de la piscine, qui nous servent à faire les 3 scènes, le camping, la cuisine, etc. Donc en fait, on ne peut pas cuire de choses avec des fours qui consomment de l'énergie parce qu'on n'a pas assez de puissance. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a énormément de choses qui sont cuites au barbecue et à la broche.
Toujours dans l'optique de limiter son impact carbone, ce festival a un cahier des charges pour la programmation. Privilégier les artistes locaux, régionaux, nationaux, parfois belges, en tout cas sans jamais aller chercher des stars internationales venant faire leurs concerts en jet privé.
Oui, alors on essaye, dans la mesure du possible, d'avoir des artistes régionaux, belges, et on essaie de pas trop dépasser Paris. Bon, cette année, avec O2N, qui est en partie originaire de Bordeaux, en fait, on vient d'un peu plus loin. Mais en fait, voilà, c'est un cahier des charges qu'on essaye de s'imposer dans la limite d'une programmation qui nous fait plaisir aussi, quand même. Même ces petits dépassements-là, en fait, sont, on s'arrange toujours pour les compenser par autre chose, pour garder notre A. Si on a 50 cyclistes, en fait, on compense le O2N qui vient de Bordeaux.
Cette programmation se veut en tout cas éclectique. Tour d'horizon avec Florent Decroix, co-organisateur du Bivouac Festival.
Alors, vendredi, on aura Sheila, on aura Los Apardo, François Enziat Las Montagnes. Ça, c'est un peu mon petit coup de cœur de l'année, c'est Camille Yembe, qui est une jeune Belge aux influences pop-rap, et un avenir vraiment très prometteur et qui fait pas mal parler d'elle en ce moment pour les gens qui sont intéressés par ce type de musique. On a forcément O2N, qui est un groupe qui, correspond absolument aux valeurs du festival et qui est extraordinaire sur scène, donc on est vraiment ravis de les avoir cette année. Une autre pépite aussi qui s'appelle Martha et qui est un groupe de techno joué live avec plein d'instruments et qui est assez étonnant et qui fera bien le pont avec la scène de la piscine où on aura des DJ qui vont enchaîner de 11h à 3h du matin.
Pour le samedi, du beau monde aussi, avec notamment Malik Djoudi.
Ouais, Malik Djoudi en tête d'affiche. On présente plus trop Malik, mais on est ravis de l'accueillir cette année. Alors, un régional de l'étape, notre Samy de Coster et Digital Chauvage, qui sera là cette année. On est super content de l'avoir. Petit coup de cœur pour Whisper, en fait. Pareil, projet très entre chansons et pop alternative, en fait. Qui a été une musicienne de This is La Peste, qu'on a eu, c'était l'année, première année, sur Bivouac, en fait. Donc, on est content de l'avoir revenir au festival. Après, on aura iFed, qui est un projet un peu funk, disco, rock, qui est hyper fort en live. Blasé, qui est un producteur franco-américain, plutôt dans une ambiance électro, en fait, qui sort son premier album là cette année. Et nous étions une armée, en fait, duo, influence pop-rock, post-rock, donc un peu de guitare sous les arbres, ça fera du bien. Le dimanche, en fait, Canapé Mix et Groupe des Familles, en fait, sont les deux collectifs, en fait, qui opèrent sur la scène de la piscine, qui cette année, en fait, va être ouverte un peu plus, de façon un peu plus extensive, c'est-à-dire qu'on va l'ouvrir plus tôt dans l'après-midi, et il y aura un tournoi de pétanque, en fait, des jeux, des choses comme ça qui vont se dérouler au bord de la piscine en musique avec le groupe des familles, et ensuite ils font la boîte de nuit du camping, en fait, de 23h à 3h du matin, en fait, sur la scène de la caravane. Donc voilà, et sur le dimanche en fait on a décidé de d'y aller vraiment en pente douce, c'est-à-dire que on a remarqué que les gens se levaient très tard, etc., et voulaient quand même repartir tôt. Donc cette année, en fait, on va organiser des choses qui seront plus des animations. Donc on aura un bingo, on va renouveler l'opération menu anti-gaspi, c'est-à-dire que un peu comme au mariage on fait un rebond, et on va finir les restes du festival, je parle de la nourriture, pour un menu anti-gaspi à 5€. Et l'année dernière, en fait, c'est ça aussi qui fait qu'on a des bonnes notes et qu'on s'améliore régulièrement, c'est que on a fini avec aucun reste, donc on n'a rien jeté, absolument rien, sur Bivouac l'année dernière en termes de nourriture.
Alors pour terminer, Florent, que dire à ceux qui nous écoutent pour les convaincre de venir au Bivouac Festival au parc départemental de l'Ain du 29 au 31 août ?
Que ça va être super, en fait, mais vraiment, en fait, pour organiser énormément de concerts à l'année, etc., même pour nous, à Gauche de la Lune, en fait, Bivouac est vraiment un moment très privilégié, en fait, où même si on organise, on se détend, on prend son temps, on passe des très bons moments, et surtout, on rencontre des gens, on a le temps de discuter avec le public a le temps de discuter avec les artistes. En fait, il se passe plein de choses dans le microcosme Bivouac, qui fait que, au-delà de la musique, de tout ce qu'on va y trouver, en fait, c'est un vrai moment de partage, une espèce de moment suspendu, en fait, où on prend le temps de rencontrer les gens dans la nature.
Le Bivouac Festival, c'est donc au parc départemental d'Olin du 29 au 31 août. Les billets sont de 27€ par jour de concert, 52€ pour le pass week-end. Billetterie, programmation et toutes les infos utiles sur le site internet www.bivouacfestival.com. Un sujet réalisé par Julien Maille pour Radio Plus.
Une émission réalisée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
So long, swoop like an arrow, like a jet plane, like a dream. Sing, she is singing, and she's singing right through me. She said, "Child, your voice is the sound wave of your soul. Listen carefully to what you know. You've been here before. Oh, that is seen.
slow. Slowly I take my turn, and the flame grows taller as I learn. One by one, so high, the ones I love take to the sky. When it comes my time, will I leave a trail of light? My soul over the ocean will see its shadow, big and strong. No, it won't be an illusion, 'cause I'd have been up there for so long.
Solitaire chez un berger du cœur, lequel m'offre pas cher l'Égypte et le couvert. Hélas, il m'idolâtre, et pour qu'il y folâtre, je laisse un peu saumâtre mon corps musclé au pâtre. Pointant son obélisque, le pasteur se risque à d'antiques pratiques des temps pharaoniques. Plongeant tel Osiris dans le culte d'Isis, il force mon iris et fermement s'immisce. Il est fort comme un lion, il broie mes ganglions. J'invoque Champollion, mais l'Adonis tient bon. Il me laisse plancher, le cœur tout déhanché, comme un vieux papyrus, comme un vieux papyrus. Avec son air de sphinx, il a murmuré thanks d'une voix gutturale. Y'a papyrus. À tous les solitaires, j'envoie ce cri du cœur. Assurez vos arrières et laissez le sphinx, et laissez le sphinx, et laissez le sphinx taire.
Le dimanche 1er juin a eu lieu dans la commune de Saint-Yne dans l'Oise une course régionale de cyclisme, le Prix de Saint-Yne. Course organisée par le club Compiègne Sport Cycliste. Doré Thierry, vice-président du club, nous présente le Compiègne Club Sport Cycliste.
C'est donc le Compiègne Sport Cycliste, donc c'est un club de Compiègne où on a toutes les catégories FFC UFOLEB, donc des jeunes en école de vélo de 4 ans, 5 ans jusqu'à 13 ans. Après, on a les différentes catégories, donc minime, cadet, donc U15, U17, les Open 3 Access sur lesquels on organise une course aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, avec la mairie de Saint-Yne, en partenariat avec eux, on organise le prix de Saint-Yne, donc dans trois catégories. Course en Open 3 Access, en U17 et U15. Et hier, on a organisé le trophée départemental des jeunes de l'Oise à Venette, où on a servi de support aussi au trophée de l'Aisne et de la Somme, donc toute la journée pour les écoles de vélo. Et là, c'est des épreuves combinées, c'est-à-dire que pour les plus jeunes, les U7 et U9, c'est donc une course, une épreuve de sprint et une épreuve de jeu, de manualité du vélo. Et pour les U11, U13 et U15, c'est un cyclo-cross, un sprint et une course de régularité. Et donc on a fait cette organisation-là en partenariat avec la commune de Venette hier.
Alors revenons sur le prix de Saint-Yne, c'est la 100e édition ?
Ah, ça doit être la 5e ou 6e édition qu'on fait ici. On a fait il y a 6 ans en école de vélo, on a dû faire 3 ans en école de vélo. Et là, ça fait 4-5 ans qu'on fait pour les Open 3 Access, U15 et U17.
Combien de kilomètres font les parcours, monsieur ?
Aujourd'hui, les Open 3, ils avaient 84 kilomètres. En U17, donc c'est les cadets, donc ils ont 64 kilomètres. Et les minimes, donc les U15, ils ont 30 kilomètres.
Vous êtes vice-président, mais vous êtes aussi commissaire. Quelle est la fonction d'être commissaire dans une course de cyclisme ?
Commissaire, moi je suis commissaire du club de Compiègne. On a aussi le support de deux commissaires de la Fédération française de cyclistes des Hauts-de-France qui viennent nous épauler. Bah, c'est pour faire respecter les règlements, faire les classements. Et s'il y a des litiges, de prendre les décisions pour qu'on respecte les règlements, que les classements soient bien officiels, sans tâche, sans problème.
Open Tour Access, qu'est-ce que c'est ?
Bah, les Open 3, ça correspond à... il y a différentes catégories, donc Open 1, Open 2, Open 3. Donc c'est la troisième catégorie, on peut dire un peu élite par rapport aux catégories. Les Access, c'est plus des gens qui ont un niveau un peu moindre, mais qui peuvent courir quand même avec les Open 3. C'est souvent des adultes ou des juniors surclassés qui viennent courir dans ces catégories-là.
Qui concourt aujourd'hui essentiellement des clubs de l'Oise ?
Aujourd'hui, on a des clubs de l'Oise, on a des clubs de la région parisienne, de la Somme, on a un club de Douai qui est venu, on a l'Agny Pont-Carré, donc on a des clubs un peu de partout qui viennent sur nos courses.
Comment se porte, monsieur Doré, le cycliste dans les Hauts-de-France ?
Ah, il se porte bien, mais c'est vrai qu'on voit dans les compétitions qu'il y a moins de coureurs qu'il y a quelques années. Le Covid a causé pas mal de dégâts dans les clubs sportifs et les associations. Et on a du mal à retrouver nos niveaux d'avant le Covid.
Au niveau de la sécurité, comment s'est organisé le prix de Saint-Yne ?
Ben, il faut faire des dossiers, il faut déclarer la course auprès de la Fédération française au niveau des Hauts-de-France. Après, il faut organiser, il faut faire les dossiers auprès de la mairie, de la préfecture de Senlis pour Saint-Yne. On a tous des dossiers à faire, à compléter et à indiquer le nombre de signaleurs, le circuit, les horaires, tout un tas de choses. Que la sécurité soit faite au maximum sur la course de Saint-Yne. Aujourd'hui, on a 11 signaleurs sur la course avec une voiture ouvreuse, une moto ouvreuse et une voiture derrière pour sécuriser les coureurs. Donc on essaie d'assurer de faire la sécurité au maximum de ce qu'on peut faire.
Sans eux, pas de course.
Allons, sans signaleurs, sans commissaire, sans dirigeant, sans bénévole, on ne fait plus de course.
À quelle vitesse roulent à peu près les cyclistes aujourd'hui ?
Ah, les cyclistes, ils roulent à 40-45 km/h pour les plus grands. Après, les cadets, t'en as un peu moins, 35-40, ils font des pointes, mais ça roule. Vous voyez, ils ont du beau matériel, il y a quand même des entraînements de plus en plus pointus, donc ça roule assez vite. Donc le palmarès de la course Open 3 Access, donc le vainqueur, c'est De La Haute Simon du Compiègne Sport Cycliste. Le deuxième, c'est Morin Villiers-Luis Team Factory. Et le troisième, c'est Lenoir Jules du Team Avenoir.
Qu'est-ce qu'ils remportent chacun ?
Chacun, ils ont un prix Fédé, ils ont eu une coupe et un bouquet.
Allez, ça attaque devant. toujours peloton groupé sinon à 7 tours de l'arrivée.
Je m'appelle Hugo Canisset, je suis en minime deuxième année au CC du Valois.
Qu'est-ce que vous aimez dans cette discipline?
J'aime bien les routes, ça roule, on roule vite, c'est jamais le même rythme, donc, et jamais les mêmes coureurs. J'aime bien découvrir des coureurs tout le temps.
Là vous êtes en tenue, qu'est-ce qui va se passer dans quelques minutes?
Je vais aller m'échauffer avant la course pour faire monter mon cardio. Parce que souvent au départ en minime on part vite, et du coup si on s'échauffe pas le cœur il monte trop vite et on est direct dans le rouge, stress. Du coup c'est compliqué.
Quel est votre palmarès?
Je suis champion de l'Oise en FFC et aussi en UFOLEP. J'ai gagné 3 courses en FFC. Là, cette saison, je suis à 14 courses et 13 podiums.
C'est votre première participation au Prix de Saint-Yne ?
Oui, c'est la première.
Vous connaissez un petit peu le trajet ?
Oui, je l'ai fait tout à l'heure en voiture, mais là, je vais aller le faire en vélo pour revoir toutes les bonnes trajectoires dans les virages et le vent.
Il y a des virages un petit peu ?
Oui, je crois qu'il y a 3 virages. Il y en a un qui est un peu compliqué parce qu'on arrive vite et on ne le voit pas trop en amont. Après, le reste, c'est des petits virages qui passent bien normalement.
Vous commencez, s'il vous plaît.
J'ai rencontré sur place le maire de la commune, M. Jean-Pierre Desmoulins. Bonjour.
Bonjour.
Alors, quel a été votre rôle dans l'organisation de cette course?
Depuis un certain nombre d'années, la municipalité, pour mettre un petit peu d'attractivité, puis pour permettre aussi aux clubs de vélo de pouvoir continuer et les parents qui ont des enfants de pouvoir exercer la compétition cycliste. Donc ils nous sollicitent, dont j'en parle au conseil, si on est favorable ou non favorable. Puis mon conseil à chaque fois est favorable pour que chaque année, à peu près à cette époque, de début juin, cette compétition puisse avoir lieu. En fait, c'est 3 compétitions. Les organisateurs, on prend le club de Compiègne, et eux gèrent l'ensemble, c'est pas nous. Nous, on met à disposition la voirie, les trottoirs, éventuellement notre salle, s'il y a des besoins.
Depuis une petite heure, vous assistez à la course. Comment ça se passe?
Ça se passe qu'en fait, c'est la première fois que je ne fais qu'assister. Oui, je vais être honnête avec vous, j'ai une passion qui est la seule passion que j'ai, où j'ai fait la pratique, c'est le cyclisme. J'ai fait beaucoup de compétitions. Maintenant, vu l'âge, j'en fais encore du vélo, plus au même rythme. On voit que ce n'est pas très sélectif, puisqu'ils ont du mal à se détacher, ceux qui tentent de s'échapper. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de côte, à part cette partie-là qui est un peu compliquée, mais après tout le reste, c'est ou de la descente ou du plat. Moi, je me rappelle l'avoir fait ici, la course. On montait la côte du cimetière, que vous devez connaître, vers Feilly, vers Néry, et on redescendait vers Barbeaucelles. Ça, c'était vraiment sélectif. Maintenant, les temps ont changé parce que l'organisateur, je lui ai proposé, ce qui nécessiterait de ne pas être obligé de passer par des passages à niveau. Mais son inconvénient, c'est que maintenant, dans beaucoup de domaines, je ne dis pas que les coureurs ne sont plus courageux, ça les fait reculer devant l'obstacle et ils ne viennent pas s'inscrire. Et on n'aurait pas grand monde. Oui, je regrette parce que, comme je vous disais en introduction, tous les administrés et les citoyens ne peuvent pas bénéficier de la majeure partie qui sont au cœur du village. On est vraiment à l'extrémité ouest de la commune et les trois quarts, puisqu'on fait une partie sur Savoie. Après la pancarte, c'est Savoie-Laumont. Et là, les gens de la commune ne peuvent pas bénéficier du passage. Ça, c'est, je le déplore.
Je suis avec Marco, le responsable de la voiture sécurité. Alors, quel est votre rôle?
C'est de sécuriser le peloton des cyclistes pour qu'il n'y ait aucune voiture qui les percute, en fait.
Vous ne faites pas que cette course-là?
Non, je fais pas mal de courses dans l'Oise, en fait. Toutes les grosses courses de l'Oise, je suis dessus et je les sécurise.
C'est difficile comme fonction?
C'est pas facile parce qu'on tombe sur une population qui n'est pas très réceptive. Donc on essaye de leur expliquer au maximum de ce qu'on peut faire, en fait.
Il y a eu des soucis, des choses à signaler pour l'instant ce dimanche?
On a eu quelques soucis, donc on les a gérés nous en interne sur le devant. Et puis le but du jeu, c'est que les cyclistes ne voient pas ces problèmes-là, en fait, et qu'ils ne les ressentent pas.
Pour expliquer aux auditeurs, vous suivez les cyclistes pendant tout le trajet?
C'est exactement ça, je fais la voiture pilote en fait, je suis devant et je m'assure de leur sécurité pour pas qu'eux aient de problème.
Vous devez être concentré vraiment tout le temps?
Exactement. On ne peut pas relâcher la concentration parce qu'en fait, les voitures peuvent sortir de n'importe où, d'une petite route, d'un chemin, ou faire demi-tour et revenir face à nous. C'est ce qui est arrivé précédemment sur la course et qu'on a géré.
Vous êtes dans une voiture et il y a votre collègue, lui, qui est sur une moto, c'est ça?
Oui, tout à fait. On est deux, une voiture ouvreuse et une moto. Comme ça, s'il y a des échappées, c'est plus facile de faire passer une moto qu'une voiture.
Vous êtes usé mentalement à la fin de la journée?
Ah oui, c'est une fatigue à l'intérieur qui est énorme.
Et finalement, vous roulez très peu vite, à la même vitesse que les cyclistes finalement?
Tout à fait, oui. Alors après, on s'adapte en fonction de la vitesse du peloton qu'on sécurise. Si demain on sécurise un peloton, que c'est des élites, on va beaucoup plus vite. Si maintenant c'est des écoles de vélo, ben on s'adapte. Et le but du jeu, c'est que en fait, la sécurité soit optimum.
Vous le jugez comment le parcours de ce dimanche?
Ah, c'est une course qui est très sélective parce qu'il y a des virages, il y a un faux plat montant et il y a un peu de vent sur le côté, donc c'est pas mal. Et au niveau sécurité, on est nickel puisque pour l'instant on rencontre aucun gros problème majeur.
Allez, tout de suite, c'est bien.
Bonjour, je m'appelle Thomas Bécry et je viens de l'ES Gervais-Lila dans le 93. Bah, on a un club qui fait de la compétition, mais aussi on roule pour le plaisir. Et donc, j'ai pas beaucoup l'habitude de courir ici. En général, je fais plutôt les courses en Ile-de-France, donc c'est cool, ça change de courir avec d'autres personnes.
C'est votre première participation au Prix de Saint-Yne?
Oui, c'est ça. Moi, d'habitude, je cours plutôt près de chez moi, mais là, il n'y avait pas de course, donc je suis venu ici.
Quelle course vous avez fait aujourd'hui?
Ben, j'ai essayé plusieurs fois, mais le circuit était trop plat pour moi. Donc, en plus, j'ai pas d'équipier. Les grosses équipes, elles ont tout le temps ramené. Oh, ça se joue au sprint et je n'ai pas tenté puisque j'avais plus la force après.
Vous êtes arrivé, vous avez votre classement?
Non, mais je fais fin de peloton, j'ai pas joué le sprint, donc je pense que je sais pas, on devait être 20-25 dans le peloton, un peu plus. Bah, le parcours était compliqué puisque c'était pas mal de lignes droites et il y avait beaucoup de vent, donc on pouvait pas vraiment sortir. Mais sinon non, il était cool, plutôt plat, il y avait une petite montée, mais ça se passait quand même assez bien. Donc c'était plus propice à un sprint qu'à un homme seul ou une échappée. Ben voilà.
Vous avez roulé à peu près à combien en moyenne de vitesse ce dimanche?
Là, on a 39 de moyenne sur 1h30.
Qu'est-ce qui vous plaît dans le cyclisme?
Moi, j'aime bien la persévérance qu'il faut avoir, l'assiduité aussi, la discipline, parce que ça demande beaucoup d'entraînement. Et donc moi, c'est ça que j'aime bien avec le dépassement de soi. C'est un sport très compliqué. On est obligé de sortir tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il vente. Moi, ça me plaît. C'est vraiment un sport de combattant et je trouve ça bien.
C'était Yann Barré pour Radio Valois-Mulsien. J'étais en ce dimanche 1er juin dans la commune de Saint-Yne dans l'Oise. J'ai assisté à une course régionale de cyclisme, le Prix de Saint-Yne. Course organisée par le club Compiègne Sport Cyclisme.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Radio Campus 106,6.
Dans une main, je tiens mon dossier. Dans l'autre, le ticket disant que je suis la dernière arrivée d'une soixantaine de postulants. Si j'avais su que caissière fait partie de ces boulots qui peuvent ouvrir une carrière, je serais peut-être venue plus tôt. Mais un peu d'attente ne me fait pas peur. Je suis toujours de bonne humeur. Je me dis, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Ça m'amuse quand je suis assise d'observer comment la chaleur dessine sur ma belle chemise de jolies taches de sueur. Je me rafraîchis dans les toilettes, je tire la chasse, ça cause une fleuve qui inonde la cuvette et mes espadrilles neuves. Heureusement, j'ai pris mes antidépresseurs. Je suis toujours de bonne humeur. Je me dis, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Musique. en pleurniche, un bébé de chaque côté. Une femme s'excuse, son caniche fait pipi sur mon dossier. Vient de sortir Madame 60, c'est donc à moi. Je prends l'allure d'une jeune femme élégante et je me casse la figure. Mais une bonne caissière n'est jamais en pleurs. Je suis toujours de bonne humeur, je me dis. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. S'ouvre de nouveau, on voit le chef tout énervé. Il dit qu'il ferme son bureau, soi-disant pour aller manger. Je prends un café pour 2 euros, mais par l'absence de gobelets, la machine a aussitôt tout dégueulé sur le parquet. Je reste à sec encore une heure. Je suis toujours de bonne humeur. C'est pas grave. Le chef me sourit poliment. Je crois savoir ce qu'il a mangé. Un poil de cul lui colle aux dents. Quand il regarde mes papiers et me demande pourquoi je triche, je vois que tout est effacé par le pipi du caniche. Je referai la queue, celle des chômeurs. Je suis toujours d'une excellente humeur. Je me dis waouh.
Pendant qu'ils font la queue.